en moi. Ma peau est blanche et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc.
Persécutés, agressés et tués dans certains pays d'Afrique subsaharienne en raison de croyances liées à la sorcellerie. Les personnes atteintes d'albinisme vivent dans la peur d'être attaquées ou victimes de discrimination, sans parler des agressions du soleil contre lequel elles doivent également se protéger au quotidien sur un continent où il est particulièrement violent. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge pour vous présenter le magazine au féminin de VO Afrique avec une invitée ici dans le studio, Kumba Makalou, présidente de la fondation Salif Keïta qui lutte pour les droits des personnes albinos. Merci beaucoup Kumba d'être avec nous.
Merci Nathalie.
Alors, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'UNESCO a organisé le 13 juin dernier au siège de l'organisation un événement intitulé « Vivre l'albinisme au quotidien ». Afin d'attirer l'attention sur cette particularité génétique héréditaire. Particularité génétique provoquée par un déficit de production de la mélanine qui donne sa couleur à la peau. Alors en 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution condamnant les agressions et les discriminations à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme qui demandent aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection. Et en 2014, le 13 juin a été proclamée Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme par l'Assemblée générale des Nations unies. Alors Kumba, vous étiez à New York cette année lors de cette journée, n'est-ce pas ?
Oui, en partie. Nous avons fait un événement pour continuer à promouvoir la cause, l'albinisme, non seulement en Amérique, mais aussi avec des officiels de l'ONU qui étaient aussi qui ont aussi participé.
Vous pouvez nous en parler un petit peu brièvement. Est-ce que vous avez été satisfaite de cet événement? Est-ce que vous sentez que ça va avancer?
Oui, pour l'événement, c'était quelque chose que nous avons entamé avec notre nouvelle ambassadrice, la Fondation Salif Keïta, qui est la mannequin Diandra Forest, qui est très belle, plus que belle,
très belle,
dans le cœur et à l'extérieur aussi.
Ouais.
Et donc, elle a fait un petit film de peut-être 6 minutes qui fait des entretiens avec des différentes personnes avec l'albinisme aux États-Unis pour qu'ils expliquent un peu la condition, ce qu'ils ont vécu, quels sentiments ils ont et comment ils ont pu surmonter leur albinisme pour pouvoir se sentir bien dans leur peau. Et donc, cet événement aussi, on a invité des personnes de l'ONU, des droits humains qui concernent les droits humains, surtout avec des gens avec l'albinisme. Et ils sont venus, ils ont intervenu un peu, ils en ont parlé du travail qu'ils font pour vraiment garantir que les droits humains des personnes albinos soient garantis et respectés à travers le monde.
Alors, on peut dire que vous êtes l'épouse de Salif Keïta également.
Absolument. Hein,
et vous êtes maman, vous avez deux enfants.
Deux enfants, oui.
Ouais. Alors, comment... Quel effet ça fait d'être l'épouse de Salif Keïta? On a dû vous poser la question un million de fois.
Ça a son bon côté, son mauvais côté, non. Mais il est vraiment une personne exceptionnelle dans tous les sens. Comme vous le voyez, il a un très grand cœur, un talent exceptionnel et je l'adore, je l'aime beaucoup.
Ouais.
Donc,
c'est formidable. Ouais. Alors, c'est l'ONU qui le dit, hein, dans certaines communautés hein, comme on le sait, ces croyances, hein, les fameuses croyances mettent en danger constant la vie et la sécurité des personnes atteintes d'albinisme. Et ces mythes millénaires sont présents dans des pratiques et attitudes culturelles de populations à travers le monde. C'est pas seulement en Afrique. Hein. Oui. Alors, l'ONG Sous le même soleil a répertorié, hein, malheureusement, 457 attaques, dont 178 meurtres commis depuis ces deux ou trois dernières années dans 26 pays d'Afrique. Les pays les plus souvent cités sont la Tanzanie, avec 161 attaques, 76 personnes tuées, hein, dont des enfants, comme on le sait. Oui. La RDC, 61. Le Burundi, 38. Le Malawi, 65, je crois, depuis 2014. Et la Côte d'Ivoire, 26. Il y a également le Kenya. Il n'y a pas vraiment des pays qui sont épargnés. Le Kenya, dernièrement, en période électorale. Bon, alors, tout ça pour dire, est-ce que vous pensez, Kumba, que la plupart des pays font des efforts pour combattre ces crimes contre les personnes albinos?
Non, pas vraiment. Et s'ils en font, c'est parce qu'ils sont sous pression des médias. Surtout quand au Malawi, on apprend qu'il y a des meurtres. Il y en a eu au moins 5 depuis janvier de cette année. Et c'est dans la presse internationale. Il y a beaucoup de tourisme au Malawi. La même chose en Tanzanie, ils vivent beaucoup de leur côté tourisme. Alors, quand ils sont face à cette mauvaise presse sur leur pays, oui, on voit quelques changements. Mais c'est rare. Au Mali, on n'a pas vu du tout d'intervention. En Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, même au Sénégal, il y avait eu une plainte de l'association des albinos contre X. Parce qu'ils ne pouvaient pas identifier contre qui portait cette plainte. Mais il y a eu des massacres d'albinos. On a trouvé des corps avant les élections présidentielles avec Abdoulaye Wade. Donc, il y a beaucoup...
C'est partout.
C'est partout. C'est partout en Afrique. Il y a rarement un pays africain. Si ce n'est pas en Égypte, je suis allée en Égypte et j'ai rencontré des personnes albinos qui m'ont dit qu'ils vivent vraiment sans problème. Ils ont des vies heureuses là-bas. Mais en Afrique subsaharienne, c'est répandu.
À propos du Malawi, hein, il a interdit, parce qu'on a beaucoup parlé du Malawi dernièrement, sans doute le président s'est manifesté aussi, enfin il y a eu beaucoup de à travers les médias, hein, de mesures qui ont été prises, et le Malawi, comme la Tanzanie un peu plus tôt je crois, a interdit en mai dernier l'exercice des sorciers et guérisseurs traditionnels après une série d'assassinats donc de personnes atteintes d'albinisme. Alors le jugement interdit également aux journaux de publier des encarts publicitaires de guérisseurs traditionnels. Et la justice, en fait, statuait sur la plainte de 3 clients, donc de sorcellerie sans doute, hein, qui dénonçaient l'usage d'organes d'albinos dans les pratiques magiques. Donc, est-ce que, selon vous, cette mesure, interdire la sorcellerie, c'est la solution ?
Je pense que c'est un début, mais aussi la sorcellerie, elle est aussi très répandue en Afrique, les croyances aux choses occultes. Si la sorcellerie est interdite, est-ce que les gens ne vont pas le faire d'une manière clandestine? Et aussi, qui sont exactement ces personnes, ces clients?
C'est toujours la question, hein. Les politiques, déjà, hein, on le sait, parce qu'on parle d'élections, les politiques. Donc, c'est même des gens très éduqués, en fait. C'est des gens diplômés, c'est des gens...
Qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent. Parce que ça coûte cher, apparemment, d'obtenir les parties de corps d'une personne albinos. Ils ont dit le marché, c'est peut-être jusqu'à 75 000 euros, des sommes astronomiques. Et en 2010, au Kenya, j'ai dit publiquement... Je blâme les politiciens, je blâme les hommes d'affaires pour ces crimes.
Et qu'est-ce qu'on vous répond quand vous dites ça? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui se sentent concernés, en fait.
Non, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment, parce que nous sommes malheureusement sur un continent où les droits sont assez limités et c'est le pouvoir qui règne. Et les personnes qui sont au pouvoir, c'est eux qui vraiment décident les lois, qui décident qui va être protégé, qui ne va pas être protégé. Et si c'est dans leur bénéfice, de consulter ces sorciers, ils vont les consulter. Si ils pensent que c'est vrai, que et c'est pas vrai, hein, je veux insister que c'est pas vrai.
Il faut vraiment le rappeler. Il faut dire, c'est des croyances fallacieuses. C'est forcément.
Oui, hein, absolument. C'est diabolique. C'est 100% diabolique. Ouais. C'est consulter le diable pour régler ses problèmes et détruire des vies innocentes. Pour rien, qui ça va pas servir à quoi que ce soit, et des vies sont détruites d'une manière tellement cruelle, mais c'est des croyances qui existent depuis des siècles sur nécessairement sur les albinos, mais les croyances occultes.
Mmh. Et on sait que dans d'autres pays, notamment au Gabon et pays alentours, on a des enfants aussi qui sont victimes de crimes rituels. C'est un problème récurrent quand même.
Absolument. Ouais. Et j'ai toujours pensé que l'occulte, c'est vraiment la grande malédiction africaine, parce que c'est tellement répandu, que ce soit ces crimes rituels, que ce soit s'asseoir avec un spiritualiste pour quel que soit le problème, pour qu'il trouve cette solution. Est-ce que les gens pensent vraiment que ces personnes ont ce pouvoir? Et s'ils ont ce pouvoir, ce qu'ils vont vous donner, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous savez, si vous êtes en train d'acheter des choses qui viennent d'un sacrifice humain ou qui d'une partie de corps d'une personne albino, est-ce que vous savez d'où ça provient? Et c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Il faut simplement arrêter. Si les gens veulent devenir riches, ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à chercher des moyens honnêtes et intègres d'obtenir de l'argent.
Surtout des gens qui sont déjà à un certain niveau élevé dans la société. Oui. On se demande ce qu'ils veulent de plus.
Absolument.
Conflits et crises en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants est le thème de la Journée de l'enfant africain 2016, qui est organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 en souvenir du massacre d'écoliers et d'étudiants lors d'une marche pour leurs droits Soweto en Afrique du Sud par le régime de l'apartheid le 16 juin 1976. Alors qu'en est-il du droit des enfants africains aujourd'hui? Je vous propose d'écouter le coup de gueule d'une fervente militante guinéenne, Marthe Dédé Kouavogui, présidente d'Omega, l'organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique, joint par Georges Léonard Sagnot.
Cette journée de l'enfant africain est un événement annuel. Hein. C'est bien ce que nous déplorons. On se dit que depuis ces 15 années, il y a eu certes des améliorations par rapport à l'information, mais la chose reste insuffisante, surtout que nous avons constaté, nous, Omega, puisque nous sommes sur le terrain, et en particulier en Guinée, qu'il y a une insuffisance manifeste de la volonté politique de nos gouvernants. Il faut encore plus de moyens, il faut encore plus de volonté, et donc nous, Omega, l'organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique, nous disons d'accord, chapeau à vous, État africain, de respecter des cérémonies par rapport aux dates décrétées, que ce soit par les Nations Unies ou par rapport à l'Union africaine, mais c'est insuffisant. Alors... Mais l'information, la sensibilisation doit être du 1er janvier au 31 jusqu'à la source. C'est ce que nous faisons, nous, Omega. Nous sommes plus près des enfants.
Voilà, c'était Marthe Dédé Kouavogui, présidente d'Omega, l'organisation des mères et enfants de Guinée et d'Afrique. Alors, Koumba Makalou Keïta, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion de la dame? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit?
Absolument, tout commence avec la femme. Et sans la femme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de société, il n'y a pas de continuation. Donc, devons tout faire pour respecter ces droits-là.
Mmh. Alors, revenons sur le problème des personnes atteintes d'albinisme. C'est encore une vie difficile à vivre. Hein. En fait, on vit dans la peur, quoi.
Oui.
La peur constante, hein, on connaît des endroits où les personnes albinos ont vraiment besoin d'être protégées, n'est-ce pas? Alors, les mesures politiques, Qu'est-ce que vous auriez à dire sur la police dans la plupart des pays africains quand il se trouve un cas comme celui-ci d'attaque sur un albinos?
La première question, c'est où se trouve la police quand il y a ces attaques? Parce que nous avons bien identifié que les personnes albinos dans certains pays sont en danger. Mmh. Donc la police, c'est où ils se trouvent. La police, c'est qu'ils ont, ils sont en mesure de les protéger, mais on ne voit aucune police, on n'entend pas parler de la police jusqu'après les attaques et après ils n'ont aucune justification ou aucune explication pourquoi ces personnes ont pu être attaquées d'une manière aussi violente par plusieurs attaqueurs, plusieurs personnes qui les guettent.
Mmh. Donc. Et la justice, est-ce que vous avez déjà remarqué des jugements importants dans ce domaine ou pas?
En Tanzanie, il y a eu des jugements, il y a des gens qui ont eu la peine de mort. Je ne sais pas s'ils ont été exécutés, mais ils ont fait des jugements contre des personnes qui ont été retrouvées coupables pour des crimes. Et ça, c'est en Afrique de l'Est. Ouais. Il faut que je dise qu'en Afrique de l'Ouest et dans d'autres endroits, il y a beaucoup à faire. Les communautés doivent se rassembler et vraiment défendre, ne pas attendre la police. Mais ça, si vous savez qu'il y a une personne ou plusieurs personnes albinos dans votre communauté, dites-vous que c'est à vous aussi de les protéger.
Mmh. Bien sûr.
Oui. Et si vous entendez ou si vous soupçonnez qu'ils seraient en danger, vous devez aller parler à leur famille, vous devez voir la police.
Les mentalités, parce que l'on sait que malheureusement, il y a des gens de la propre famille d'un enfant albinos qui vont justement non pas le protéger, mais également le vendre.
Oui,
on le sait, ça peut être la maman, ça peut être le papa, ça peut être un oncle, etc. Donc au niveau des mentalités, là, qu'est-ce qu'il y a à faire?
Il faut un lavage de cerveau, comme dirait mon mari, il faut un lavage de cerveau. Ouais. Complet. Et c'est à comprendre que ce sont des êtres humains et obtenir, même s'ils obtiennent un peu d'argent pour ça, c'est être criminel.
Ce sont des criminels.
Ce sont des criminels. Mmh. Et il n'y a rien d'autre à dire. Et il n'y a pas d'excuse de dire, oh, c'est un enfant. Non, c'est un enfant, tout simplement.
Quand vous vous trouvez face à des cas en Afrique, qui sont vraiment des cas extrêmement fragiles parce que l'on sait que le gouvernement ne les protège pas, etc. Est-ce que vous procédez à certaines mesures, vous, au sein de votre ONG, pour que ces personnes puissent avoir des demandes d'asile et aller dans d'autres pays?
Absolument. Il y a 4 cas où on a intervenu pour que des personnes albinos qui étaient à l'extérieur puissent obtenir l'asile. Et dans les 3 cas, on a pu l'obtenir en Espagne, en Angleterre récemment. On a intervenu pour un jeune homme qui était du Cameroun, un albinos du Cameroun. Mm-hmm. Et on a fait les interventions avec ses avocats auprès de la justice anglaise pour dire que oui, effectivement, sa vie serait en danger. On ne peut pas dire que c'est d'une manière absolue, mais la probabilité est très haute. Qu'il soit en danger ou bien d'être attaqué ou bien de mourir d'un cancer de la peau.
Mmh. Alors, est-ce que l'albinisme est un problème génétique? Oui, c'est ça. C'est un problème génétique.
C'est ça.
Est-ce que je peux vous demander si vos enfants sont atteints d'albinisme ou pas? On a dû vous poser la question de nombreuses fois.
C'est toujours la grande curiosité.
Ouais.
Et non. Mes enfants, ils n'ont pas le gène qui manifeste. Mais à travers leur père, c'est sûr, ils ont le gène récessif. Et je voudrais signaler qu'il y a des recherches qui ont été faites que 75% de la population a ce gène récessif. Mm-hmm. Mais il faut deux parents. Il faut que les deux parents aient le gène. Et après, si les deux parents ont le gène, ils ont 1 sur 4 chances d'avoir un enfant albinos. Donc il y a aussi les idées, c'est la femme qui porte, il y a des hommes qui divorcent leur femme parce qu'elle donne naissance.
C'est toujours la femme.
C'est toujours la femme.
Oui, bien sûr. Oui.
Bien sûr. On subit beaucoup de choses, mais nous sommes très fortes, heureusement. Et c'est faux, il faut les deux parents. Il ne peut pas avoir d'enfant albinos si ce n'est pas les deux par an.
Alors moi, je suis en train de regarder des magnifiques photos là sur votre site, sur le site de la Fondation Salif Keïta, parce que c'est ça l'objectif aussi, pour faire accepter l'autre. Il faut le montrer, n'est-ce pas ?
Absolument.
Donc il y a des belles photos, des très belles photos d'enfants, de bébés, de petites filles, etc., qui défilent comme ça sous les yeux. Puis il y a des photos terribles aussi qui nous rappellent la réalité, n'est-ce pas ? Mais il faut qu'elles soient là aussi, n'est-ce pas ?
Absolument.
Ouais.
C'est les deux. Parce qu'au fait, ça, c'est une belle chose, mais qui a été détruite par la société, au fait. Parce que l'albinisme, c'est pas... Les gens disent souvent c'est une maladie. Moi, je n'aime pas ce terme de maladie.
Oui, justement, parce qu'on l'a dit très souvent et en fait, on peut pas le dire comme ça, n'est-ce pas ? C'est pas une maladie, c'est un problème génétique.
Un problème génétique.
Ouais.
Et j'ai parlé avec des dermatologues qui ont dit vraiment, les gens doivent voir ça comme un trait physique, comme t'es grand, t'es petit, t'es rouquin, tu vois, et tu peux être albinos. C'est une couleur, c'est un manque de mélanine qui fait que... La peau est blanche.
Il faut le présenter comme ça.
Alors, oui, c'est pas dramatique.
Particularité génétique. Mais ceci dit, on en souffre quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exposer au soleil.
Si on s'expose au soleil, il faut être bien couvert. Il faut porter des chapeaux. Il faut porter de l'écran total. Il faut faire très attention des lunettes de soleil et tout. Mais il y a des personnes albinos qui ont de très belles peaux parce qu'ils ont aussi... eu l'éducation, les parents avaient l'éducation de les protéger du soleil et les moyens économiques parce que ça coûte très cher. Et c'est une chose qu'on essaie de faire, c'est distribuer des chapeaux, distribuer des lunettes de soleil, l'écran total. On veut fabriquer ça d'ailleurs au Mali parce que on a trouvé des partenaires qui le font déjà et on voudrait vraiment entamer ça au Mali pour que la distribution soit beaucoup plus facile parce que ça coûte extrêmement cher au fait. Donc, on a toujours besoin de soutien à ce niveau-là. Ouais. Mais avec ce soutien, on n'aurait pas autant de cancers de la peau. Et nous, à la fondation là-bas, il y a peut-être, je dirais, 10 à 15 personnes qui viennent avec des débuts de cancer par mois. Et certaines personnes, il n'y a pas les moyens au Mali pour les soigner et on les fait évacuer. Mais c'est pas facile. On veut la prévention. C'est la prévention qu'il nous faut. Mmh. Et aussi l'éducation. Parce qu'on a des personnes dans les villages. Il y avait un père de famille qui avait 5 enfants albinos. Il était dans un village. Il comprenait pas du tout pourquoi ses enfants ressemblaient à ça. Et bien sûr, c'est l'agriculture qu'il fait. Donc les enfants étaient au champ. Ils tombaient malades. Ils comprenaient. Ils disaient, mais ils se croyaient maudits parce qu'ils se disaient, pourquoi j'ai ces enfants-là qui peuvent même pas travailler dans mon champ?
Ils étaient trop exposés.
Et ils les emmenaient à la fondation pour les laisser. qu'il y a cette fois.
Vous les gardez.
Gardez-les. Oh. Et on s'est assis avec lui et on lui a expliqué. On lui a dit non, il faut comprendre pourquoi ils sont comme ça, ils ont ces couleurs. Et, et au bureau, il y a des photos de personnes albinos, des animaux qui ont ça, pour montrer que c'est quelque chose qui existe partout dans le monde, même les animaux, même des plantes peuvent avoir ça. Et que. Parce qu'ils ont cette couleur-là, ils sont très sensibles au soleil, donc ils ne peuvent pas travailler au champ. Et en les mettant là-bas, ils mettent leur vie en danger et c'est pour ça qu'ils tombent malades. Ce n'est pas des enfants faits pour travailler dans les champs, c'est des enfants qui sont très, très spéciaux, des enfants qu'il faut protéger et qui sait, ils peuvent devenir prochain Salif Keïta, ils peuvent devenir... prochaine Diandra Forest, mais il faut savoir comment les traiter et les aimer.
Et comment il a réagi ce monsieur quand vous lui avez expliqué
très
tout
bien.
Ça?
Alors, très bien.
Il a gardé ses enfants.
Oui, les a gardés.
Ça c'est une bonne nouvelle.
on était heureux. Il les a gardés, mais il avait jamais compris.
Et donc, vous le suivez quand même, ce monsieur, parce qu'avec 5 enfants, ça ne doit pas être facile. Les 5 sont albinos.
Albinos.
Ça ne doit pas être facile pour lui non plus, justement, pour bien les protéger.
Non. Non. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne pour voir comment ils vont, pour être sûr que tout se passe bien jusqu'à présent. Mais on a passé beaucoup de temps avec lui et il sait qu'on est là pour lui, pour les aider. Et on leur a fait des dons, etc., pour les assister. Donc,
Kumbar Makalou Keïta, présidente de la Fondation Salif Keïta, n'est-ce pas ?
Oui.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci pour ce que vous faites.
Merci.
Et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup à José Le Morissin, à la production, et bien sûr à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir.
Okay. Merci beaucoup, Nathalie. Merci.
Au revoir.